Parlons design. Parlons design. Design. Parlons.
Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Parlons Design dans lequel on va parler de la tendance du neumorphisme. Est-ce que c'est la tendance 2020? Si oui, pourquoi? Quels sont ses désavantages? À quoi faut-il faire attention? On va voir ça dans ce podcast. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le neumorphisme? Le neumorphisme en français, c'est ce qui va s'apparenter au nouveau skeuomorphisme. L'idée, ça va être de redonner de l'épaisseur dans l'interface et de redonner un côté physique à l'UI digital. C'est-à-dire relier vraiment ces appareils digitales, téléphone, tablette, à leur référent physique, à leur redonner un aspect un peu granuleux où on puisse le toucher. Il faudrait presque imaginer dans le futur qu'on puisse avoir de l'épaisseur tout simplement dans l'écran, que l'écran aujourd'hui c'est capable de faire des retours haptiques comme si on cliquait sur un vrai bouton. Pourquoi pas dans le futur avoir des écrans qui soient capables de simuler une épaisseur, que quand on passe son doigt on reconnaisse les boutons par exemple. Et donc le skeuomorphisme, le nouveau skeuomorphisme, qui s'appelle donc le neumorphisme, ça va être cette idée là en gros, redonner de l'épaisseur, redonner du côté physique à l'interface digitale. Le but derrière ça, niveau expérience utilisateur, c'est de revenir à une affordance du physique dans le digital. C'est-à-dire que l'objet, l'interface digitale, par affordance, donc le fait que voilà, l'objet en soi donne envie, indique sa propre fonction, via cette ressemblance au physique. C'est marrant parce que voilà, il y a une espèce de boucle des tendances, un peu comme dans la mode. On dit souvent que la mode, voilà, ça tourne sur des cycles de 20, 30, 40 ans. Voilà. Mais au final, on se retrouve que dans le design digital, on revient un peu à ça. C'est-à-dire, il y a quelques années, au début des smartphones, on était pas mal dans le skeuomorphisme, donc dans une interface digitale vraiment très inspirée du réel. Pour exemple, l'application Notes sur iPhone au tout début, ça ressemblait énormément à un carnet de notes avec la marge, avec tout ça. Et donc c'était inspiré du carnet de notes classique transformé en interface digitale. Après, on a eu une tendance, un glissement vers le flat qui était très bien représenté par exemple par Windows 8 où tout était plat et on était dans un digital plat parce que un écran c'est plat. Après, on a glissé notamment via Google, les applis de Google sont d'ailleurs un très bon exemple, vers le matériel qui propose une élévation de certains éléments pour faire du relief justement, mais du relief digital, c'est-à-dire les éléments flottent, si on les représente, une ombre qui est tout autour d'un objet, ça voudrait dire que cet élément flotte et qu'il y a une lumière au-dessus. Et donc, là vers lequel on irait, vers ce que propose cette tendance du neumorphisme, c'est que ces éléments, ils aient bien de l'épaisseur, de l'élévation, mais que ce soit pas une élévation un peu magique, flottante, mais une élévation d'épaisseur, tout simplement comme un objet qui est épais, on le regarde de haut, il y a un côté qui est éclairé, et un côté qui est ombragé, car il n'est pas du côté de la lumière. Et tout ça, ça va recréer du relief, comme si l'objet sortait de l'écran. Visuellement, ça va se traduire par quoi? Par un côté avec une ombre claire, donc finalement comme un côté éclairé, un peu frappé par la lumière, et un côté ombre foncée, donc tout simplement le côté qui n'est pas lumineux. Pour ça, je t'ai mis plein de ressources en description si tu n'as pas encore vu des tests d'interface avec cette tendance du neumorphisme. Donc n'hésite pas à le regarder en écoutant, c'est aussi ça l'objectif du podcast, c'est de pouvoir regarder les choses en même temps qu'on écoute. Donc je t'ai mis des liens dans la description du podcast. Le résultat de cette tendance, c'est un look relativement frais, qui moi m'a beaucoup plu à première vue, et qui est cohérent finalement avec l'idée qu'on se fait d'une interface, et c'est pas si différent finalement du material design qui est globalement la norme aujourd'hui, plus ou moins, mais voilà, ce côté, on utilise des couleurs flat avec des ombres pour faire ressortir une espèce d'épaisseur, pour faire ressortir certains éléments. Voilà, c'est finalement un glissement et c'est ça qui fait que ça nous paraît aussi frais à l'œil. C'est pas une cassure dans les tendances actuelles, c'est plus une évolution vers quelque chose de plus réaliste qui sort plus du côté physique. Mais bien sûr, il faut toujours se méfier des tendances et c'est aussi pour ça que j'ai voulu réaliser ce podcast. Avant qu'on parle un peu des désavantages et des soucis de cette tendance, de quoi faut-il se méfier? On va faire un petit tour par l'histoire. Comment cette tendance du neumorphisme est apparue fin 2019 avec une énorme hype pendant quelques semaines? Ça va certainement retomber, c'est une tendance parmi tant d'autres, mais une tendance intéressante. Donc c'est parti d'un shot, donc d'un post sur la plateforme Dribbble de l'agence Hype 4, Hype4, je pense que ça doit être une agence américaine peut-être, et donc qui a proposé, qui a posté voilà, une image d'une interface avec comme titre pour la tendance un petit peu lancée avec cette interface de New Skeuomorphism, donc de nouveau skeuomorphisme. Après, dans les commentaires, les gens ont proposé le nom de Neomorphism, et puis Michael Malek Mix et Jason Kelly, qui sont donc deux designers de l'agence Hype4, ont proposé le mot plus simple, plus court de Neumorphism, donc Neumorphism, et ça a vraiment été hypé très vite sur les réseaux sociaux, sur Dribbble, sur Twitter. Je m'y suis moi-même tenté et j'ai essayé voilà, quelques trucs avec ce style qui rend vraiment sympa. Michael Malemix a d'ailleurs écrit 3 articles sur le sujet un petit peu, une pré-intro qui était sortie avant cette tendance mais qui déjà l'introduisait un petit peu doucement. J'étais tombé sur cet article super intéressant d'ailleurs. J'essaierai de vous mettre également les liens dans la description. Un article d'introduction vraiment au Neumorphism après qu'ils aient posté leur shot sur Dribbble. Et puis un article un peu pour calmer la tendance dans lequel il expliquait pourquoi le Neumorphism ne serait pas la tendance de 2020. Donc c'était assez intéressant parce qu'en fait il a lui-même détruit la tendance qu'il avait lancée, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire que l'article, il est assez intéressant justement parce qu'il critique ce qui ne va pas, les soucis, et en même temps montre que cette tendance a ses petits avantages. Donc c'est vachement intéressant, je vous conseille d'aller lire ces articles. Voilà un petit peu pour l'histoire du Neumorphism, et désormais je vais vous parler un petit peu de l'erreur que j'ai commise avec cette tendance, des désavantages de ce type de visuel, et voilà, qu'est-ce que peut nous apporter finalement cette tendance. Donc, mon erreur, elle est stupide, elle est ridicule, c'est que j'ai voulu l'essayer directement sur mon application Sésame, donc le gestionnaire de mot de passe, l'application disponible sur iOS et sur Apple Watch, et donc je me suis dit, bah tiens, cette tendance elle est sympa, je vais l'essayer rapidement sur mon app. Donc j'ai pris le screen principal, voilà, l'écran principal, et j'ai essayé de le redesigner en mettant cette patte graphique. J'ai adoré, sur le moment, je me suis dit, ouais, c'est vraiment cool, donc je l'ai posté sur Dribbble, bon voilà, ça c'était sympa, tu vois, de l'exploration, et je me suis dit, tiens, je vais refaire toute l'appli comme ça. Je me suis enflammé sur cette tendance, c'était bête, j'ai perdu beaucoup de temps, finalement, bien sûr, j'ai reculé, je me suis dit, ça va beaucoup trop vite, je n'ai pas réfléchi aux conséquences, donc, voilà, déjà le premier conseil que je vais te transmettre dans ce podcast, c'est ne te lance jamais comme ça. C'était bête, je le savais en même temps que je le faisais, mais je l'ai fait quand même, ça me tentait. Bon, j'ai appris des choses, et c'est pour ça que je t'en parle aussi dans ce podcast. Mais voilà, on ne redesigne pas une application simplement pour une tendance, ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'avais passé beaucoup de temps sur le design de cette application, de nombreux utilisateurs l'utilisent, ça n'avait aucun sens de le redesigner comme ça. Mais par contre, ce que m'a apporté cette expérience, c'est de découvrir, bien sûr, les limites de cette philosophie un peu Neumorphism, de ce que ça propose, de ce que ça apporte. Et donc j'ai rechopé, on va dire, 4 critiques à faire sur ce Neumorphism, 3 contraintes auxquelles il faut faire attention. Le premier point qui va être gênant par rapport à nos interfaces actuelles, c'est qu'on utilise pas mal, globalement, de boutons volants, ou de choses qui passent au-dessus de tout le reste. Sur le Neumorphism, ces boutons volants deviennent incohérents. C'est-à-dire que si on s'inspire d'une interface physique et de l'épaisseur, on a peu d'éléments volants dans notre quotidien. Donc ça devient très incohérent et il faut les remplacer, il faut trouver une autre solution pour mettre en place ces boutons. Il y a également un risque d'accessibilité, c'est-à-dire que les détails d'épaisseur sont relativement légers malgré tout. C'est une petite ombre en haut, une petite ombre en bas, et donc il faut faire attention pour les personnes qui ont des problèmes de vision tout simplement à ce que l'interface reste cohérente même s'ils n'arrivent pas à discerner ces détails d'épaisseur. Également, ça nécessite du développement 100% personnalisé. Pour avoir cette cohérence de l'épaisseur, c'est donc pas mal de temps de développement. En fonction des plateformes, c'est plus ou moins dur d'ajouter plusieurs ombres. Sur du web, ça va être extrêmement simple de faire une ombre claire, une ombre foncée, ou des ombres intérieures. Sur, par exemple, du développement iOS natif avec du Swift, ça devient beaucoup plus compliqué, et c'est beaucoup plus de temps passé pour développer cette interface, cette cohérence aussi de l'épaisseur, qui s'accorde également, bien sûr, si on parle d'un bouton physique qui a de l'épaisseur, quand on va appuyer dessus, on va s'attendre à ce qu'il rentre un peu dans son soc finalement. Et donc ça va falloir également le faire pour avoir toute une interface cohérente. Et enfin, le dernier souci que j'ai relevé, c'est un problème de cohérence dans la navigation. Parce que dans un espace physique, c'est tout simplement pas forcément toujours cohérent avec un espace digital. Si on a de l'épaisseur, si on a des éléments voilà, qui ressembleraient à des boutons réels, quand on va cliquer, on va avoir du mal à comprendre comment arrive un écran par-dessus, par exemple. Donc voilà, il y a tout ça à gérer, à penser quand on fait une interface neumorphique comme ça, inspirée donc de la réalité du physique, qui sont des points importants. Finalement, après avoir exploré cette tendance, je dirais qu'elle est adaptée à plusieurs types d'interfaces, deux principalement. Les interfaces utilisateurs physiques, bon, je m'explique, par exemple, pour une interface de maison connectée, gérer ses ampoules, gérer son lave-vaisselle, gérer je ne sais quoi, ce type d'interface peut être tout à fait adapté, parce qu'en fait, on reporte des éléments physiques habituels, un interrupteur, un bouton de paramétrage, sur un mobile. Donc ça peut être très intéressant dans ce cas-là pour créer vraiment le lien dans la tête des gens qui ont moins d'affinité avec le digital et leur faire comprendre que bah, s'ils appuient sur ce bouton-là sur leur téléphone, c'est le même que leur interrupteur physique par exemple, et du coup ils vont se douter que c'est exactement le même comportement. Donc ça peut être intéressant dans ce genre d'interface et également pour des apps simples avec peu d'éléments. Par exemple un timer, ça peut lui donner un look frais, que ce soit simple, que ça ne gâche pas la navigation, que ça ne mette pas d'incohérence dans le design, et donc ça peut être vachement sympa. Donc voilà, c'est intéressant de par le retour du lien digital-physique qui se recrée finalement et qui, je pense, ne s'est jamais totalement perdu, mais qui peut avoir tendance à s'oublier. Et finalement, le digital, il vient juste compléter les objets physiques du quotidien. Toute interface digitale est liée à un objet physique, elle se diffuse sur un objet physique. Donc c'est intéressant voilà, de toujours lier les deux et de ne pas l'oublier. Ce que je t'invite à faire pour les prochaines tendances, voilà, pour les tendances à venir, c'est de toujours observer les tendances. N'hésite pas à les découvrir, à les tester un petit peu, mais il ne faut surtout pas les adopter sauvagement. C'est un manque de prise de recul, et donc faut vraiment faire gaffe à ça, de ne pas se lancer dans des tendances juste pour le feeling comme ça. C'est agréable, ça fait apprendre des choses, mais faut pas le lancer sur des projets sérieux, on va dire. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, t'a fait découvrir cette tendance de neumorphisme, t'a fait apprendre des choses sur cette tendance. Il y a toujours les liens sur les ressources pour découvrir le neumorphisme dans la description. Et je t'invite, comme à la fin de chaque podcast, à rejoindre le Discord de Parlons Design, où il y a plusieurs designers de la communauté du podcast qui discutent, qui proposent leurs sujets, qui demandent des feedbacks sur leurs travaux, donc c'est vachement intéressant. N'hésite pas à le rejoindre, c'est bien sûr gratuit. J'espère que ça t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons design.